Par exemple, Masterchef, qui était une autre émission culinaire, sauf que c'était des amateurs, ça a beaucoup moins marché en France parce que justement, c'était plus télé-réalité que Top Chef. C'était plus conçu comme ça et c'était vraiment comme du divertissement. Et en fait, ça marche mieux dans les autres pays et la France est quasiment le seul pays où Top Chef est le programme de référence. Je pense qu'il y a vraiment ce côté où on est fier de notre patrimoine culinaire et on a envie de connaître, on a envie de comprendre et ça nous fait rêver.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Pas besoin de nom de famille, c'est le prénom féminin le plus connu de la cuisine française à la télé, Maïté. Pendant plus de 10 ans, cette ancienne annonceuse à la SNCF a présenté l'émission culinaire culte La Cuisine des Mousquetaires avec son acolyte Micheline Banzé. Cassoulet, rôti de porc, salade gasconne, poulet aux écrevisses, soupe à la bière et au potiron, les recettes de Maïté sont généreuses, gargantuesques, dignes d'un gros manuel de cuisine de terroir ou encore d'une auberge landaise. Longtemps, Maïté a été le visage de la cuisine sur petit écran. Mais aujourd'hui, la cuisine sur écran s'affiche de bien d'autres façons. Depuis maintenant une décennie, les émissions de compétition de cuisine se multiplient. De Top Chef à Master Chef, en passant par Cauchemar en cuisine ou Le Meilleur Pâtissier, les programmes relèvent désormais plus de la télé-réalité que de la leçon de cuisine, type les recettes de Monsieur X, cette émission des années 50. Le ressort utilisé est devenu celui du spectacle. Le succès de Top Chef ne tient pas uniquement au fait d'apprendre des astuces culinaires, mais aussi à la pression qui monte épreuve après épreuve, l'attachement à des candidats et candidates, la mise en scène de la tension, l'immersion dans le monde étoilé des chefs, cet univers si cher à l'identité de la France. C'est simple, Top Chef bat des records d'audience en réunissant à chaque épisode des millions de téléspectateurs, au point d'être même regardé avec attention par des gens qui n'aiment pas particulièrement cuisiner dans la vie de tous les jours. Mais plus récemment, et notamment pendant les confinements, une autre émission a rencontré un franc succès, Tous en cuisine avec Cyril Lignac. En direct à la télé, celui qui est présenté comme le chef préféré des Français et des Françaises a proposé chaque soir une recette à faire avec lui. Dans le même temps, les recettes sur Instagram et les tutos cuisine sur TikTok ont explosé. On trouve sur ces réseaux sociaux de plus en plus de photos alléchantes suivies en légende de la marche à suivre pour reproduire un plat ou des astuces pour cuisiner plus facilement. Bref, entre la télé et les smartphones, les recettes sont aujourd'hui bien loin des vieux livres de cuisine et des blogs de cuistots du dimanche. Pour discuter du succès de la cuisine sur écran et son évolution, j'ai téléphoné à Constance Lasserre. Constance est créatrice de contenu sur Instagram où, avec son compte Hungry Consti, elle propose des reviews de restaurants. Jeune diplômée de HEC Paris, elle a fait son mémoire sur l'évolution du pouvoir de prescription culinaire. Dans ce travail, elle explique que l'argument d'autorité culinaire n'est plus seulement détenu par les guides, les chefs et les critiques culinaires, mais aussi par de nouvelles voix, amateurs. J'ai commencé par demander à Constance ce qu'elle aime dans Top Chef et pourquoi.
Top Chef, c'est vraiment devenu genre mon highlight de mes semaines. Vraiment, je me réveille le lundi, j'attends le mercredi soir. Je me réveille le mercredi matin, j'attends le soir. Et qu'est-ce que j'aime dans Top Chef? Je pense qu'en fait, c'est le fait de se sentir vraiment avec les candidats et d'être au plus près d'eux et en fait de voir que c'est des jeunes comme nous quoi. Enfin moi j'ai 24 ans, la plupart des candidats ils ont mon âge voire certains sont plus jeunes. Ils sont à la cool, ils parlent comme ça face caméra, ils sont comme nous, ils font des blagues, ils balancent des punchlines et après en même temps on les voit juste après faire des sortes d'exploits culinaires et on se dit mais waouh quoi. Et en fait, je pense que les gens aiment beaucoup cette émission parce qu'il y a une part de quelque chose qui fait vachement rêver, de cette cuisine qui est toujours plus élaborée, toujours plus gastronomique, toujours plus technique. Et c'est des choses, on sait qu'on les fera jamais à la maison. Et en même temps, il y a ce côté super humain où on s'attache aux candidats hyper vite, on s'attache aux jurys, on s'attache même aux chefs, aux grands chefs qui viennent dans l'émission régulièrement. Parce que donc chaque émission, il y a un grand chef ou deux qui sont invités. Donc ça peut être des chefs 3 étoiles, des chefs internationaux qui sont au 50 Best, etc. Et moi, maintenant, j'ai l'impression que Pierre Gagnaire, c'est mon papy, quoi. Quand je le vois arriver, quand je le vois arriver à la maison, hier soir, il est venu. Et j'étais trop contente de le retrouver, quoi. Je dis, ah, c'est Pierre Gagnaire et tout. J'avais l'impression que je connaissais ses mimiques, je connaissais sa manière d'être. J'étais trop heureuse. Et en plus, il était en duo avec mon candidat préféré. Donc j'étais super contente. Et en fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui font partie de ma famille aujourd'hui. Enfin, c'est trop bête à dire, mais je les connais hyper bien. Et ce qui est super cool, je trouve, avec Top Chef, c'est que, habitant à Paris personnellement, on peut vraiment facilement passer de l'écran à la réalité. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec la saison qui a été hyper suivie, avec donc plusieurs candidats, Mallory, Maurice Sacco, Adrien Cachot, et qui ont ouvert un peu des pop-up ou des restaurants juste à la sortie du confinement. Et tout le monde a pu y aller, tout le monde a pu rencontrer les candidats en vrai, goûter cette cuisine qui nous a fait tellement rêver. Et finalement, il y a même des gens qui se sont déplacés en France, etc., pour rencontrer ces candidats. Et je trouve qu'il y a un côté qui devient... tout est possible en fait. On peut les regarder à la télé un jour et le lendemain aller manger chez eux. Et c'est assez ouf.
Il y a un truc d'accessibilité alors, c'est ça qui est plaisant. Peut-être quelque chose qui descend un petit peu la cuisine de son piédestal en rendant vraiment accessible l'expérience via justement ces candidats qui nous ressemblent. D'ailleurs, en plus, ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que quand les gens parlent de Top Chef, ils parlent presque la phrase d'après d'un candidat ou d'une candidate préférée. Donc ça montre le pouvoir en fait de se reconnaître dans quelqu'un ou en tout cas d'aimer suivre quelqu'un. Toi, c'est qui alors du coup ton candidat préféré?
Alors aujourd'hui, qui est encore dans l'aventure, je suis pour Mohamed, parce que voilà, je sais pas, je trouve qu'il a un caractère qui me fait... En fait, ils sont tous très très bons, enfin, et de plus en plus, ils ont tous fait leurs armes dans des magnifiques cuisines, ils ont un niveau technique qui est incroyable, et moi j'adore Mohamed, parce que je sais pas, il me fait rire, sa manière de parler, il se définit un peu comme venant du quartier et tout, et c'est trop cool quoi, enfin, on a l'impression que c'est un pote, et il fait des blagues, et en même temps... On peut s'extasier sur ce qu'il fait, sur son niveau, et même si au fond on n'y comprend rien, et même si au fond on ne sait pas vraiment si le sabayon de un tel était meilleur que l'émulsion de un autre, on commence à se dire ah là il a géré, ah là il commence à s'ouvrir, on se met tous à avoir des avis comme ça sur des choses hyper gastronomiques, et on a l'impression de maîtriser ces trucs-là en fait, alors qu'au final bon.
Oui c'est ça en fait, on s'habitue à un type de vocabulaire aussi. Justement, ouais. Hier, quand on parlait de Top Chef avec des amis, le pote en question nous disait « Bon, voilà, maintenant, je sais ce qu'est un sabayon, je sais ce qu'est un gromeski. » Il y a des trucs comme ça, du coup, qui deviennent un peu plus ordinaires, du coup, dans notre vocabulaire. Mais du coup, toi, par exemple, qu'est-ce que tu vas chercher dans Top Chef quand tu regardes cette émission? Le truc qui m'interroge, c'est j'ai l'impression qu'il y a des gens qui regardent vraiment juste pour le côté télé-réalité, parce que c'est quand même ça, suivre des gens, leur évolution, s'attacher à eux. Est-ce que c'est ça, plus aussi le côté bouffe qui parfois peut-être te donne des idées dans ta vie quotidienne? Est-ce que ça joue?
Moi, personnellement, je suis une fondue de cuisine. Je suis absolument passionnée par tout l'univers de la gastronomie, la cuisine en général. Et je suis pas forcément une grande cuisinière moi-même, mais j'adore manger, j'adore les belles choses, j'adore les bons restaurants. Je suis fan des chefs, des grands chefs qui viennent. Et moi, personnellement, je sais que c'est quand même aussi cet univers de la cuisine qui me fait vachement rêver. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je regarde. Après, j'ai des amis qui regardent Top Chef qui sont encore plus à fond que moi et qui, eux, s'en fichent complètement de la cuisine. Ils savent pas qui c'est, Pierre Gagnaire ou je ne sais quel, Alexandre Mazia, etc. Mais en fait, ça les fait kiffer juste pour le côté gastronomique. Après... je pense qu'il y a les deux qui jouent, parce que par exemple Masterchef, qui était une autre émission culinaire comme ça, sauf que c'était des amateurs, ça a beaucoup moins marché en France, et parce que justement c'était plus télé-réalité que Top Chef. C'était plus conçu comme ça et c'était vraiment conçu comme du divertissement. Et en fait ça marche mieux dans les autres pays, et la France est quasiment le seul pays où Top Chef est le programme de référence. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté où les gens, on est fiers de notre patrimoine culinaire, etc. Et on a envie de connaître, on a envie de comprendre, et ça nous fait rêver. Et moi, je sais que dans Top Chef, ils sont souvent là, les candidats font une recette et puis ils mettent une petite astuce dans un encadré. Et c'est assez marrant, c'est pas des trucs, par exemple, astuces pour cuire vos riz de veau, mettez un peu de vinaigre au fond de... Enfin, et c'est des choses où on se dit, mais jamais je fais ça. Et avec nos amis, ça nous fait toujours vachement rire, parce qu'on se dit, mais les astuces sont de moins en moins pratiques. et en même temps ça nous fait rigoler. Et je sais que bah, voilà, moi je regarde pas pour ça, mais pareil pour les grands chefs qui interviennent souvent, ça me donne envie de les connaître. Souvent je vais me renseigner sur leur restaurant et cet écosystème de la gastronomie qu'on apprend à connaître aussi un petit peu.
Ah, c'est hyper intéressant ce que tu racontes, et notamment la comparaison avec MasterChef. Donc c'est bien la preuve que si Top Chef rencontre ce succès, c'est pas juste pour le côté télé-réalité, mais le côté aussi immersion tout à coup dans ce monde gastronomique incroyable qui est vraiment qui fait partie du soft power français, donc qui est quelque chose aussi de très ancré dans notre culture, et d'apprendre aussi peut-être, oui c'est ça, les noms de ces grands chefs, d'avoir l'impression en fait qu'ils peuvent nous livrer des astuces, même si du coup ces astuces au quotidien on les applique pas nécessairement. Donc
c'est vrai que par exemple ils vont filmer dans les cuisines des grands restaurants, ils font des reportages comme ça sur les grands restaurants, et c'est vrai que c'est des choses, à moins que on puisse aller manger dans des restaurants 3 étoiles, ce qui est pas le cas pour 99,9% de la population, on n'a pas moyen de s'en approcher, et puis tout le monde ne lit pas le guide Michelin, donc un chef triplement étoilé, déjà c'est pas évident pour tout le monde. C'est des choses, voilà, à force de les voir, ça revient un petit peu dans le vocabulaire, et je pense que ça a pu donner envie à certains de un jour se payer une expérience d'exception dans un restaurant 2 ou 3 étoiles, parce que le chef les a fait rêver, parce qu'il y a aussi une starification qui est hyper importante. Quand tel grand chef, par exemple Mauro Colagreco, qui avait été numéro 1 du 50 Best, donc des meilleurs restaurants du monde, quand il est arrivé, il y avait la musique derrière, les candidats qui avaient les larmes aux yeux, etc. Donc même sans connaître, on se dit bon, bah ça doit être important, enfin ça doit être spécial, et voilà. Et du coup, ça, je pense que ça nous pousse à la curiosité et à se dire bon, si c'est tellement important pour autant de gens, peut-être que voilà, ça a de la valeur.
Et alors du coup, sur l'aspect qu'on mentionnait tout à l'heure de Top Chef qui permet d'avoir des petites astuces dans sa vie quotidienne, mais pas forcément non plus toujours. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens regardent Top Chef sans forcément avoir envie de cuisiner après ou le faire. Ça donne envie de comparer avec l'émission Tous en cuisine, qui a été un peu la révélation télé du confinement, lancée très rapidement, donc après le début du confinement, avec tout de suite un énorme succès, puisque c'est un programme qui a réuni chaque soir, en moyenne, plus de 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Selon toi, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer le succès de cette émission, qui pour le coup était beaucoup plus... Cyril Lignac va vous emmener dans sa cuisine, cuisiner quelque chose. Est-ce que là, du coup, on était plus sur un registre, vous allez le refaire chez vous ?
Ah bah oui, là complètement, pour moi, l'esprit était vraiment de faire participer les téléspectateurs autant que possible. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que ça a marché. Bah, déjà, Cyril Lignac, c'était quand même un chef qui était quand même très populaire, très connu. Il fait partie des personnalités préférées des Français depuis 10 ans. Et donc déjà, ça a aidé, je pense. Et en fait, je pense qu'il y avait ce côté, contrairement à Top Chef, où il y a quand même un côté rêve, on sait qu'on refera jamais ce sabayon, etc. Cyril Lignac, c'était que des recettes très accessibles. Il faisait attention à ce que tout soit pas trop cher, que ce soit des produits qu'on puisse trouver en bas de chez soi. Et il y avait vraiment ce côté participatif, au sens où au début de chaque semaine, toutes les recettes de la semaine avec les listes d'ingrédients étaient publiées. Donc les gens pouvaient faire leurs courses en conséquence, adapter leur emploi du temps pour se dire bon, allez, jeudi soir, je cuisine en même temps que Cyril Lignac. Et ça, c'était pas possible avant, en fait. Et c'est possible grâce aux réseaux sociaux et au fait que tout le monde soit hyper connecté tout le temps. Et du coup, ça fait que les gens, ils ont envie de faire en même temps, ils ont cette possibilité, et ils sont même encouragés à partager sur les réseaux sociaux après leur plat, avec le hashtag Tous en cuisine, à identifier Cyril Lignac. Et un truc super sympa que fait Cyril Lignac, c'était qu'au début de chaque émission, il présentait, voilà, des screenshots de gens qui avaient pris des photos des recettes qu'ils avaient fait sur Instagram. Et donc, il y avait vraiment ce côté engagement, quoi, qui était vraiment, je pense, inédit. Parce qu'il y a eu des émissions de cuisine, ça a toujours existé depuis vraiment une décennie, je dirais. Mais le fait qu'on se dise vraiment, je peux le faire, je vais le faire en même temps, ça n'avait jamais été aussi important, quoi.
Et aujourd'hui, donc là, actuellement, l'émission est à l'arrêt. Elle va probablement reprendre courant 2021, si je ne me trompe pas. Mais je vois régulièrement, en fait, des recettes postées sur les réseaux remonter. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, toutes ces recettes-là qui ont été mises en ligne sur Internet, elles constituent comme une grande bibliothèque de recettes, comme un peu une base de données. Et de temps en temps, les gens sont contents, du coup, d'y retourner et puis de chercher une recette qu'ils ont peut-être juste regarder à la télé ce soir-là et n'ont pas eu le temps de refaire. Ça fait penser presque à Leroy Merlin, qui est quand même une enseigne qui a pensé très tôt à capitaliser sur des vidéos YouTube pour expliquer voilà, les trucs, genre comment monter tel ou tel truc, faire tous les travaux chez toi. Et aujourd'hui, c'est une vraie base de données sur Internet qui plaît aux gens au-delà de la marque Leroy Merlin, quoi. Tous en cuisine, est-ce qu'il y a un côté... Maïté, du coup, revisitée à la sauce contemporaine. Parce que Maïté, c'était un peu ça aussi. On va cuisiner ensemble. Enfin, vous allez me regarder cuisiner, en tout cas. Peut-être que c'était moins organisé de façon à ce que les gens puissent cuisiner en direct avec elle.
Et puis, je pense que Maïté, elle avait quand même une image un peu moins cool que Cyril Lignac. Et je pense que, tu sais pas, Cyril Lignac, il a touché des publics assez divers. Il a touché des familles, voilà, des ménagères, etc. Mais aussi des jeunes, parce que tout le monde était un peu obligé de cuisiner, quoi. Qu'on soit jeune, vieux, en famille, seul, c'était une problématique qui était... Enfin, c'est devenu une problématique qui concerne tout le monde, d'autant plus que nos déplacements sont limités, c'est compliqué. Et je trouve qu'il y a ce côté démocratique, donc assez populaire et en même temps attractif, quoi. Enfin, il invite des célébrités, des gens de la télé qui sont déjà un petit peu connus. Il y a quand même un côté, il y a le côté les mains dans le cambouis où effectivement on est dans sa cuisine, vraiment sans filtre, quoi, sans chichi. Et en même temps, tout le monde peut le faire, ça peut être marrant pour tout le monde. Et puis voilà, c'est cool, quoi. Cuisiner, c'est devenu un peu stylé.
Et au-delà de cette période assez particulière qui est la pandémie, qu'est-ce que tu dirais si on essaie de faire une timeline, en fait, de toutes ces manières historiquement qu'il y a eu de parler de bouffe ? Là, spontanément, j'ai l'impression que les générations précédentes se basaient pas mal sur les livres de recettes, voire les cahiers qu'on se transmettait un peu d'une tante à l'autre dans la famille. Après, il y a eu toutes ces émissions télé. Bon, en fait, même Maïté, ça en fait partie, même si elle incarnait quand même une cuisine plutôt terroir. Après, j'ai le sentiment qu'il y a eu tout l'univers des blogs, des canal-blogs, des WordPress, que personnellement, moi, je suivais assidûment. Il y avait vraiment des blogs, je tapais la barre de recherche, je tapais l'adresse dans la barre de recherche et j'allais voir. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu plus, il y a les émissions à la télé, il y a en fait la cuisine qui s'invite à nous plus dans les réseaux sociaux où tu ne vas pas forcément chercher un lien, mais juste tu as une belle image qui arrive sur Instagram et tu dis « Ah tiens, je vais aller voir la recette » ou TikTok aussi. Qu'est-ce que tout ça raconte de nos usages selon toi ?
Effectivement, comme je dis avant, les sources d'idées, d'inspiration, etc. étaient quand même assez limitées et c'était dans les mains de quelques, on va dire, professionnels, tu vois, ceux qui écrivaient les livres de cuisine, ceux qui faisaient des émissions à la télé, ceux qui avaient des blogs aussi, enfin, c'est quand même pas un truc qui... ça prend du temps, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec justement ce côté digital, les réseaux sociaux, la viralité, je trouve que maintenant, il y a ce côté où tout le monde peut parler de cuisine, enfin... Même les amateurs, en fait, sont en position de devenir des prescripteurs. Enfin, je veux dire, toi et moi, chacun est capable de se dire un jour, je vais faire une petite recette, je vais prendre une photo et puis je vais la poster sur mon Instagram ou je sais pas, je vais faire une vidéo, etc. Et même sans être professionnel, on peut se retrouver à influencer des gens, en fait, même sans le vouloir. et je trouve que ça, c'est hyper intéressant et du coup, comme c'est plus accessible. Ce pouvoir, il est plus éclaté, comme tu dis, et il y en a partout, en fait. Maintenant, le nombre de personnes qui le font, il est largement supérieur. Et que ce soit, en fait, même des... Qu'on soit professionnel, qu'on soit blogueur ou pas, il y a même des influenceurs qui sont, je sais pas, lifestyle, sport, etc., qui parlent de leurs recettes. Il y a des gens qui le font en vidéo, sur YouTube, sur TikTok. Il y a même... La cuisine est même devenue une sorte de... Il y a des hypes, tu vois, sur TikTok aujourd'hui. Il y a des tendances qui se succèdent de recettes. Les fameuses pâtes à la feta, là, que tout le monde s'est mis à faire vraiment du jour au lendemain, quoi. des choses comme ça, ou le Dalgona Coffee qu'il y avait pendant le confinement, où c'était juste une sorte de café frappé à base de café soluble, au chaud, des sucres, ou des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que c'est tout le monde peut le faire, quoi.
Et d'ailleurs, même avant TikTok, ce qu'on observe, j'ai l'impression, à partir de 2008, c'est que les émissions se sont vachement concentrées aussi sur la pratique plus amateur. Genre même quand tu regardes Un dîner presque parfait ou à l'époque Cauchemar en cuisine, ce genre de choses, ce qu'on voulait montrer aussi, c'était les erreurs. Enfin, c'est ça qui était agréable tout à coup à visibiliser, quoi. C'est le côté, la cuisine, c'était pas juste Maïté qui sait et qui vient raconter, ou alors les livres de recettes qui sont un argument d'autorité, quoi. C'est montrer tous les fails qu'il y avait autour. Et pour en venir à TikTok, toi, il y a des comptes en particulier que tu suis ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est un réseau social quand même assez particulier où il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées. Est-ce que sur la nourriture, tu vois déjà des gens en fait arriver avec un angle précis et le tenir?
Alors sur TikTok, bon après moi, bon j'ai 25 ans. Je pense que je suis un peu dans la plage haute des utilisateurs de TikTok. Et j'avoue que je suis quand même plus sur Instagram pour les recettes encore. Mais le seul que je suis sur TikTok, c'est Diego Alari. Donc, le jeune chef qui a fait Top Chef l'année dernière et qui a 23 ans, je crois, et qui aujourd'hui, il a atteint 1,5 million d'abonnés sur TikTok. Et il fait, il fait des petites vidéos, moins d'une minute. Il filme en top shot ses mains. En train de faire la recette, et puis avec ça il fait une voix derrière où il explique de manière détaillée et à la cool en fait les instructions de la recette, et c'est vrai que ça a un côté vraiment hyper addictif.
Ça combine beaucoup de choses faites pour bien fonctionner du coup, parce que t'as le côté belles images. Aujourd'hui, tout le monde avec un téléphone peut rapidement faire de belles images quand même. C'est devenu un outil qui démocratise beaucoup l'accès à cette esthétique. Ensuite, c'est des vidéos rapides, donc du coup, ça prend en charge un peu le même rôle que YouTube à l'époque, de nous montrer vraiment les choses step by step. Et en plus de ça, c'est sur une application qui permet de monter ça avec un certain rythme que tu peux ensuite accélérer, décélérer, ajouter de musique. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est la combinaison de plein d'outils qui ont montré leur succès jusqu'à présent et hop, combiné en un, quoi. Ce que d'ailleurs Instagram essaye aujourd'hui de prendre aussi avec les Reels.
Avec les Reels, ouais, mais qui marchent super bien aussi. Hein. Ça marche très bien.
Par rapport au public TikTok versus Instagram, c'est qu'en plus sur Instagram, il y a un côté public peut-être, si je fais une moyenne, hein, mais de gens qui peuvent parfois aller au restaurant, qui peut-être ont un pouvoir d'achat et prennent ces jolies photos et sont peut-être en la vingtaine, trentaine. Mais sur TikTok, c'est des gens plus jeunes encore qui sont assez système D, assez débrouilles et qui ont une esthétique. Vas-y, en fait, on s'en fiche de faire des belles photos. Nous, on veut juste montrer des trucs pratiques et faire des vidéos rapides qui s'enchaînent et qui en fait sont belles, mais d'une autre façon, quoi. Elles sont pas belles parce qu'elles sont posées. Elles ont juste un truc un peu brouillon qui marche bien parce que c'est efficace.
C'est vrai que Instagram, c'est quand même le règne de l'image. Et c'est vrai que ça a quand même parfois dévié sur quelque chose de très esthétique, où parfois la photo de la recette est plus importante que la recette en elle-même, et que ce soit facile ou pas, réalisable ou pas, parfois c'est pas 100% transparent. C'est vrai que sur TikTok, on est vraiment sur les, comme tu dis, les life hacks ou des choses. Voilà, tu passes le truc au micro-ondes 20 secondes. Après, le résultat, il est là. Et on est aussi sur des choses à petit budget, comme tu dis, avec des produits vraiment de base. Et je pense que ouais, sur Instagram, je parle aussi des restaurateurs. On a un petit peu un public qui est aujourd'hui plus bobo, quoi. Qui ont du pouvoir d'achat, qui aiment bien les belles choses, les beaux produits. Je pense par exemple au compte The Social Food sur Instagram, qui ont aujourd'hui, je sais pas, 150 000, 200 000 abonnés et qui ont pas mal explosé pendant le confinement aussi, parce qu'ils faisaient des recettes, mais tout était hyper esthétique, magnifique, avec des produits quand même assez rares. Vraiment, c'était, moi je regardais juste parce que c'était beau, quoi. C'était pour la beauté de la chose. Et eux-mêmes, ils sont un peu sortis de leur cuisine. Ils ont lancé un pop-up de nourriture là, qui s'appelle Nani. Où c'était des pains nan avec leurs recettes et tout. Pendant 2 semaines, ils ont vendu ça en plein 3e arrondissement. Et il y avait des queues incroyables. Et ça a été sold out tous les jours, genre à 11h30. enfin, c'est devenu un truc de dingue. Et ça, je pense que c'est totalement différent du public de TikTok, qui, eux, par exemple, sont allés chez Manger et Cassez-vous, le fameux burger de TikTok où c'est Victor Hapsi qui a découvert ce burger à 3 euros et ensuite qui a créé une sorte d'émeute autour de cet endroit parce que c'était pas cher, quoi, et que les gens, c'était vraiment le burger de TikTok, et que les gens qui sont sur ce réseau, c'était des étudiants, des lycéens, des collégiens. Et donc je pense qu'on a, ouais, on a une segmentation qui est en train de se dessiner de plus en plus.
Vous pouvez retrouver Constance Lasserre sur Instagram avec son compte Hungry Consti, dans lequel elle chronique en vidéo de nombreuses adresses. J'ai également demandé à Constance s'il lui arrivait de formuler des critiques négatives à l'encontre d'un resto. Elle m'a répondu qu'elle voyait surtout son travail comme celui d'une joyeuse bonne vivante qui souhaite partager ses adresses préférées avec sa communauté. Alors quand Constance trouve qu'il y a quelque chose à redire à un endroit, elle choisit la transparence et l'inclut à sa critique. Mais quand un resto ne lui plaît vraiment pas, elle préfère tout simplement ne pas en parler. En ce sens, Constance ne se considère pas comme une critique culinaire classique, mais plutôt comme une ambassadrice de la bonne bouffe. Merci à Constance Lasserre de m'avoir donné de son temps pour parler de divertissement culinaire à la télé et de recettes sur les réseaux sociaux. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Donia Ouahada. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.